Je pense qu'il faut un investissement assez entier. Il faut faire énormément de concessions sur sa vie personnelle, familiale, professionnelle. Et je pense qu'il faut vraiment s'investir quasiment intégralement si on veut un changement assez fort, quoi.
Bienvenue dans le podcast Altitude, le podcast qui vous montre que rien n'est écrit à l'avance, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous montre que la liberté de changer de voie existe et qu'on a le droit de sortir des sentiers battus.
Il faut être souple, on va se confronter à un environnement différent, donc il faut essayer de sauter tout préjugé et y aller avec de l'humilité, et puis il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas.
Je m'appelle Emma, je suis étudiante en sciences politiques européennes à ESPOL, et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Emmanuel, qui a effectué une licence de droit à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, avant de se reconvertir dans l'univers professionnel et sportif de la navigation maritime. Bonjour Pierre-Emmanuel.
Bonjour Emma.
Tu es aujourd'hui navigateur marin, alors c'est un métier très atypique. Est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots en quoi ça consiste ?
Je suis embarqué sur des bateaux, le plus souvent sur des voiliers. Et donc, à bord, il y a plein de choses différentes à faire. Ça dépend aussi énormément de l'activité des bateaux sur lesquels je suis. Moi, j'ai plutôt travaillé sur des bateaux qui étaient entre 15 et 35 mètres, donc des voiliers de taille raisonnable, mais qui pouvaient avoir différentes activités. J'ai été sur des voiliers d'expédition, des voiliers qui faisaient du transport, des voiliers aussi qui accueillaient une clientèle un peu luxueuse. Donc, c'est un petit peu toutes ces fonctions qui pourraient caractériser ce que je fais aujourd'hui.
Alors, tu as pour objectif d'effectuer une course transatlantique en solitaire en 2023. Mais aujourd'hui, tu travailles sur des yachts en Méditerranée. Si tu pouvais nous décrire une journée dans ton métier, ça donnerait quoi ?
Une journée dans mon métier, en fait, ça dépend beaucoup de la période dans laquelle je suis. Là, je fonctionne beaucoup par période où je me mets à temps plein sur un projet ou sur l'autre. C'est-à-dire que je suis sur un projet de course transatlantique en solitaire, donc qui aura lieu en 2023 sur un petit voilier de 6,50 m. Il y a 3 semaines maintenant, j'ai reçu le bateau. Donc depuis 3 semaines, en fait, j'apprends à utiliser ce bateau, à essayer de naviguer au mieux avec. Et c'est ce qu'occupe mes journées quand il y a du vent. Quand il y a moins de vent, je cherche des partenaires, je discute avec des partenaires potentiels et je gère beaucoup de choses administratives entre l'assurance, la création d'une société, la comptabilité. On est à la fois sur un projet de voile et un projet entrepreneurial.
Justement, cette course, cet objectif que tu as, comment se passe la préparation à un tel projet, à la fois physiquement et mentalement? J'imagine que c'est quelque chose d'assez difficile, un exercice vraiment, vraiment périlleux, en plus, en solitaire, pour traverser l'Atlantique. Comment est-ce que, toi, tu te prépares?
Alors, c'est vrai que physiquement, c'est des bateaux qui demandent beaucoup, pas tant au niveau force, mais au niveau endurance. Là, il y a une semaine maintenant, j'ai fait une navigation avec un binôme pendant quasiment 24 heures. Et c'est vrai que c'est des bateaux qui vont très vite, dans lesquels il faut que la prise de décision soit très rapide, mais qui secouent aussi beaucoup, et où les périodes de sommeil et de repos, et les périodes aussi pour s'alimenter, sont assez réduites. Donc ça demande beaucoup physiquement. Physiquement, là, je suis dans un pôle d'entraînement dans lequel on nous propose 2 séances de sport par semaine. Une de pilates pour un renforcement musculaire et de la décontraction. Une autre vraiment axée sur le fractionné et le cardio. Et en plus, une séance de natation ou de course à pied. Donc ça, c'est physiquement la façon dont je me prépare. Mentalement, ensuite, on essaye un petit peu d'envisager la course, de visualiser nos manœuvres, de se familiariser avec tout cet environnement, mais on n'a pas à proprement parler de coach mental, on n'en est pas à ce niveau-là.
Voilà. Ton coach mental, c'est toi-même ?
J'essaye de faire au mieux, mais on essaye de se familiariser vraiment avec le bateau et avec l'environnement. Je pense que c'est déjà une belle étape à franchir sur des aussi petits bateaux et qui peuvent aller vraiment à des vitesses assez rapides. On parle de 30 km/h quasiment, donc c'est des bateaux qui vont vite. Et je pense que déjà, être à l'aise sur le support au niveau mental, ça aide à avoir confiance en soi, en le bateau, et ensuite le reste pourra suivre.
Alors, on va maintenant revenir quelques années en arrière pour expliquer un peu ton parcours. Tu as fait une licence de droit à la Cato. Quel était ton objectif professionnel à ce moment-là ?
Je dois avouer que j'avais pas un objectif professionnel vraiment défini. En sortant du bac, je savais que j'aimais bien la littérature et le texte, mais j'aimais aussi le raisonnement, mais je voulais plus du tout entendre parler de chiffres ou de physique. Et des discussions avec certains avocats, etc., m'avaient dit ça pourrait être des études vraiment intéressantes. Il y avait le rythme aussi universitaire qui me plaisait, et donc je me suis tourné vers des études de droit qui m'ouvraient plus de portes qu'elles ne m'enfermaient finalement.
Le droit, c'était une vocation pour toi ?
Une vocation, non, je pense pas. J'ai pas une grande vocation attachée à moi depuis que j'ai 8 ans en me disant je vais faire tel métier. Non, c'était plus une ouverture vers, je savais pas encore quoi d'ailleurs, mais c'était plus une ouverture.
Les études de droit sont souvent assez générales. C'est vrai que les étudiants s'orientent dans les études de droit car ils savent que ça ouvre plein de portes. Toi, tu avais une idée de où tu voulais arriver, ou c'était vraiment tu voulais faire ta licence et ensuite voir au cours de ces 3 ans ?
Je pense que le but, c'était de faire ma licence, ensuite de voir, mais... C'est vrai que je m'étais déjà orienté dès la L2 vers un parcours un peu plus orienté vers le droit des affaires, l'économie, etc. Toutes ces matières-là. Donc j'avais un petit peu cette fibre un petit peu liée à l'entreprise en tout cas. Donc je me voyais plus exercer dans ce cadre-là. Je ne savais pas vraiment si c'était en tant que juriste ou en tant qu'avocat. C'est vrai qu'en fait, c'est des métiers qui ont un seul nom mais qui regroupent une diversité gigantesque. Dire à telle année, en rentrant en licence, je veux faire tel métier, finalement, même s'il y en a qui ont une idée très arrêtée, souvent ça termine pas là où ils l'avaient imaginé au début, et c'est tant mieux d'un côté.
Pour revenir vraiment sur ton parcours, est-ce que les cours, l'environnement de la Cato t'ont plu, et en quoi ?
Oui, moi j'aimais beaucoup l'environnement de la Cato. C'est vrai que c'était une ambiance universitaire, mais à taille humaine. Moi, quand je suis rentré à la fac, j'avais 17 ans et j'avais vraiment peur d'être noyé, de me retrouver tout seul. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et donc, se retrouver dans un environnement où on était encadré, je pense que ça me convenait vraiment, parce que je pense pas que je faisais preuve d'une maturité extraordinaire à ce moment-là. Donc oui, ça m'a vraiment convenu pour cette partie de mes études.
Il y a des cours, des programmes qui t'ont particulièrement marqué est-ce qu'il y a un souvenir que tu voudrais nous partager ?
Oui, moi j'ai souvenir d'un prof qu'on avait justement en première année. Donc c'était vraiment au début de mes études, c'est pour dire à quel point ça m'a marqué. Mais c'était un professeur qui était vraiment très impliqué dans la vie politique, notamment dans la vie constitutionnelle de la Ve République, qui s'appelait Alex Turc, qui était professeur de droit constitutionnel et qui était charismatique, qui ne suivait pas un plan forcément prédéfini. Alors, on était un petit peu déstabilisés au début, mais finalement, je pense qu'il aidait vraiment à appréhender le fond de la matière plus que de la voir de façon très scolaire. Et ça c'était vraiment un cours assez passionnant et auquel on allait avec plaisir, même si c'était dans un grand amphi.
Ça t'a aidé pour la suite ?
Je ne me suis pas beaucoup resservi de mes connaissances de droit constitutionnel professionnellement, mais c'est vrai que... Encore aujourd'hui, je pense que ça me donne une lecture de l'actualité qui est très différente de beaucoup de gens. Je pense récemment à un exemple, les élections américaines. C'est vrai que tous les 4 ans, il y a des journalistes qui disent « Mais une voix, ça vaut pas un électeur à cause de la séparation des États, c'est scandaleux. » Mais en fait, ça fait des siècles que c'est comme ça. Mais tous les 4 ans, on le dit, il y a plusieurs siècles, ça avait une justification. Alors, est-ce qu'elle doit être mise en cause ? C'est pas à moi de le dire ou d'y réfléchir, mais c'est vrai que ça, c'est un exemple typique de ce à quoi ça peut servir au quotidien.
Tu parlais aussi tout à l'heure de ta double activité de sportif, navigateur et aussi entrepreneur. Est-ce que tes études de droit t'ont aidé dans ce sens ? Est-ce que ça t'a apporté tout simplement des connaissances qui t'ont permis de construire ta propre activité ?
C'est vrai que le côté entrepreneurial, il est assez nouveau, parce qu'avant, j'étais vraiment dans un lien de subordination vis-à-vis de mes employeurs, donc il n'y avait pas trop à se poser de questions à ce niveau-là. Depuis que je monte ce projet, que je dois chercher des partenaires, etc., oui, ça m'aide. Il y a encore quelques jours, j'ai déposé les statuts d'une SASU. je voyais à peu près où je voulais en venir. J'ai demandé de l'aide à un de mes anciens camarades de promo de la Cato, justement, pour relire, voir si j'avais pas fait d'énormité. Mais,
est-ce que tu pourrais expliquer le terme SASU ?
Pardon, oui, de la SASU, d'un type de société commerciale, en fait, que je suis en train de déposer justement pour gérer cette activité de voilier de course, qui est une structure assez adaptée. Et c'est vrai que d'un point de vue comptable, d'un point de vue... alors, j'ai pas du tout fait des études de marketing, mais on a été un tout petit peu sensibilisés là-dessus et je pense voir un petit peu là où on veut m'amener et là où, dans quel sens je souhaite amener mon projet.
Et après ta licence à la Cato, tu poursuis le droit dans un master. Donc, tu fais la première année en échange à Taïwan. Est-ce que tu pourrais nous détailler ta spécialité de master ?
Alors, j'ai fait un master 1, donc, qui était toujours à la Cato, officiellement, mais dans lequel j'étais étudiant à l'Université nationale de Taïwan. Donc, j'étais encore englobé par cette appellation de droit comptable et financier, donc une spécialisation sur le droit des affaires. Ensuite, je me suis adapté aux cours qu'il y avait localement. Et c'était un mode d'apprentissage complètement différent. Je pense qu'on peut parler de savoir mou, vraiment un programme d'études à l'américaine avec des cours d'ouverture d'esprit où la notation était assez subjective et où il y avait des rendus qui étaient complètement différents d'un partiel de 4 heures. Et ça, c'était intéressant de voir comment ça fonctionnait. Il y avait des profs étrangers, il y avait des profs qui venaient des États-Unis, soit pour quelques semaines, soit qui avaient construit leur vie à Taïwan, etc. Donc je pense qu'il y avait vraiment cette empreinte américaine au niveau du mode d'apprentissage, et ça, c'était très intéressant à découvrir.
Et au-delà de ces spécificités de ton master, j'imagine que tu as dû avoir un petit choc culturel quand tu arrives à Taïwan. Quelles différences culturelles t'ont plu ? Qu'est-ce que tu en as retenu de cet échange ?
C'est un pays qui est très intéressant parce que c'est un pays très neuf, dans le sens où c'est une partie de l'élite chinoise qui est partie au milieu du XXe siècle pour fuir un petit peu l'empreinte du parti communiste chinois et pour transmettre des valeurs un peu plus libérales et qu'on crée vraiment un pays. Donc ça, c'est très intéressant parce que les Taïwanais ont une grande fierté vis-à-vis de ça et à la fois une grande humilité parce qu'ils le disent très souvent, on est un tout petit pays. En taille, oui, c'est vrai, mais ils ont des industries de pointe en matière technologique, enfin notamment Asus.
Et qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience, sur toi, sur ta personnalité ?
J'ai appris que j'aimais beaucoup voyager. Ça, c'est vrai que j'ai vraiment adoré être confronté au quotidien à ces situations un peu difficiles. On ne parle pas la langue. Les gens en face ne parlent pas l'anglais. Donc c'est vrai que les premières semaines, tout paraît un peu insurmontable entre choisir le bon plat au restaurant où on ne sait pas lire la carte, où on montre des aliments finalement pour ce genre de choses, pour s'orienter. Enfin, c'est vrai que les premières semaines sont parfois un peu difficiles, mais à la fois il y avait une grande communauté internationale, tout le monde s'entraidait et c'était des super beaux moments.
Et pour finir un peu sur ton parcours académique, à la suite du coup de ton Master 2, tu passes le concours du barreau que tu réussis. Quel était ton état d'esprit à ce moment-là ?
J'étais dans un état d'esprit un peu particulier, je pense, par rapport aux autres personnes qui passaient le barreau. En fait, moi, le barreau, c'est un examen qui se passe en septembre. Et donc, la plupart des gens, après leur Master 2, vont en stage jusqu'au 5 juillet. Le 10 juillet, ils commencent à préparer leur barreau. Et ils s'arrêtent plus jusqu'en décembre. Alors ils étaient tous un petit peu... Quand on a commencé à préparer l'examen début juillet, je voyais autour de moi des gens assez fatigués. Moi, je rentrais... j'avais été équipier sur un bateau sur la côte pacifique américaine. Et donc, j'étais assez détendu, au début en tout cas. Bon, ensuite, il y a forcément la pression. On se fait forcément rattraper par la pression. Mais j'avais vraiment envie d'aller au bout et j'étais vraiment à 100% sur... sur ces études, et c'était des journées assez, assez condensées et vraiment assis devant un bureau.
Euh, Du coup, tu évoques cette expérience que tu as eue sur un voilier. Comment est-ce que tu es partie pour la première fois ? Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton expérience sur les bateaux au tout début ?
Au tout début, en fait, le début du début, c'était un projet avec un de mes amis d'enfance où on s'est dit il faudrait qu'on apprenne à faire du bateau, mais on ne sait pas trop comment. Alors, on trouvait que les stages, c'était un petit peu cher et on s'est dit il faut qu'on soit autodidacte. Et on avait un petit peu des petites bases de voile, un petit peu des petites bases de bricolage, et on s'est dit on va essayer d'apprendre par nous-mêmes. Et donc on est allé sur le Bon Coin et on a commencé à chercher un bateau. On a mis 1 000 euros chacun et on a trouvé le bateau de nos rêves. Et donc pendant deux étés, on est parti avec ce bateau, une fois sur la côte bretonne dans le golfe du Morbihan, une autre fois en Normandie. Et on a fait nos premiers essais de navigation. Alors c'était pas très glorieux, quoi, mais en tout cas, on s'en est sorti. Et ensuite, moi, j'avais vraiment envie de découvrir ce que c'était le large. Alors là, pour le coup, je pense qu'il fallait vraiment des compétences. Donc, je me suis dit, peut-être pas tout seul. Et en fait, il y a des sites sur Internet où les voiliers ont souvent besoin d'équipage. Et je suis allé sur ces sites, j'ai sélectionné une annonce, j'ai cliqué. On a commencé à rentrer en contact avec un skipper. Et puis, je suis parti. En fait, ça a été aussi simple que ça.
Et elle vient d'où cette idée ? Est-ce que c'était un rêve d'enfant que tu réalisais ?
Un rêve d'enfant, je sais pas, un rêve de jeune adulte, ouais, c'est sûr.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manquait dans ta vie d'étudiant du droit ? Parce que tu as vraiment fait une reconversion totale. Qu'est-ce qui a été le déclencheur, finalement, de ce projet ?
Je pense qu'il faut pas présenter ça vraiment comme une rupture qui se fait d'un coup. C'est plus progressif, en fait. Moi, je m'étais dit, je prends un an off. Pour voir autre chose, voir quelque chose qu'on m'a pas appris à la fac, que ma famille m'a pas appris, et donc ça correspondait totalement, parce que le milieu nautique et le milieu maritime, ça regroupe énormément de personnalités différentes. Donc au début, je me suis dit je vais faire ça un an, et puis en fait au bout d'un an, on propose d'autres opportunités, et puis on se dit je vais faire encore un an, et puis au début ça s'est vraiment plus fait comme ça que comme une rupture pure et nette et une fuite. Mais il y avait en tout cas un grand désir d'aventure.
C'est ça qui t'a poussé ?
Oui, ça c'est sûr, oui. Oui, il y avait une envie d'imprévu, d'aventure, qui était aussi alimentée un petit peu par la littérature, par la lecture de romans comme Dumas, Kessel, etc., qui font travailler l'imaginaire.
Tu voulais voir quelque chose d'autre que tu n'avais jamais vu avant ?
C'est ça, voir quelque chose d'autre... que j'avais jamais vu avant, éprouver des choses pour voir si c'était comme dans les livres. Il y avait un petit peu de ça, oui.
Cette envie d'aventure, de liberté, est-ce que c'est quelque chose dont tu as toujours eu envie ou est-ce qu'il y a eu vraiment un déclic ?
Dire qu'il y a eu un déclic, non, je pense encore une fois, c'est assez progressif. C'est vrai que mes premières années d'études, je ne m'imaginais pas partir forcément énormément... Ouais. Comme ça, et puis ensuite on fait un voyage, et puis on en fait un autre, et on se dit c'est chouette de voyager, et ensuite on se dit c'est bien de voyager, mais j'aimerais bien voyager autrement que par la terre, et ça se fait assez progressivement. C'est vraiment pas un cheminement brutal où je me suis réveillé un matin en me disant je vais tout arrêter et je vais aller faire du voilier. Et d'un côté c'est peut-être tant mieux parce que souvent des illuminations un peu comme ça. C'est peut-être pas forcément très fructueux.
Ça peut être dangereux aussi.
Ça peut être aussi peut-être dangereux, ouais, c'est sûr. Mais
j'imagine qu'il y a besoin de beaucoup de connaissances à la fois théoriques et pratiques sur la navigation, notamment quand on part au large dans des eaux qui peuvent être dangereuses. On peut pas y aller sans préparation.
Oui, enfin c'est dangereux à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'un bateau, ça reste quand même un endroit assez sûr au milieu d'un désert. Hein. Finalement, c'est quand même un refuge au milieu de l'océan, mais qui sert aussi à absorber les chocs, contrairement à d'autres environnements naturels. Enfin, je pense à la haute montagne, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec des guides de haute montagne. C'est vrai que les gens qui partent en haute montagne ont pas ce bouclier devant eux. Et donc, les accidents sont tout de suite... plus difficile à encaisser. Un bateau, c'est à la fois un lieu de vie, un lieu de transport. Enfin, c'est pas pour rien que les bateaux ont des noms, hein, finalement. C'est que il y a vraiment une personnalité qui se dégage de certains de ces objets très particuliers.
Ça te plaît ?
Ah oui, c'est à la fois... Oui, ça, Il y a quand même une grande poésie de trouver une sorte de d'âme au fond d'un objet qui est finalement un bout de bois ou un bout d'acier.
Et justement, comment est-ce que tu as vécu cette expérience de changer de milieu ? Parce que j'imagine que le milieu d'étudiants du droit qui passent le concours du barreau et le milieu marin où il y a, comme tu dis, plein de personnalités, plein d'histoires qui se rencontrent, j'imagine que ça doit être une adaptation à faire. Comment est-ce que toi, personnellement, tu l'as vécu ?
Ben moi, je l'ai vécu plutôt bien, je pense, parce que j'y allais aussi pour ça, pour voir comment des gens qui étaient étrangers à une profession très qualifiée de plusieurs années d'études ou très intellectuel vivait. Enfin, donc, très honnêtement, au début, je m'étais pas forcément... C'est pas la première chose que je disais que j'avais fait 50 droits, etc. Et c'est vrai que les gens, parfois, ils l'apprenaient 6 mois après. Hein, et donc, ils étaient assez surpris. Donc, c'est peut-être que je me fondais bien dans le décor, je sais pas. Non, en tout cas, l'adaptation se faisait assez facilement, mais c'est peut-être aussi, encore une fois, grâce au bateau, parce que c'est vrai que c'est un projet qui est assez fédérateur et qui aide à aller au-delà des difficultés, que ce soit des difficultés humaines, de problèmes d'entente ou des problèmes, des difficultés financières pour trouver les budgets. Enfin, donc, non, à la fin, j'étais très content de ce que je faisais, ouais.
Tu dis que la vie sur le bateau, ce projet-là, c'est fédérateur. Comment ça se passe au sein d'un équipage ? Comment est-ce que tu trouves ta place ? Comment les liens, les relations se forment ?
Ben, c'est une question intéressante parce que ça dépend énormément du bateau. Et en fait, c'est une perpétuelle découverte. Ces dernières années, j'étais plus habitué à travailler sur des voiliers qui faisaient une vingtaine de mètres et qu'accueillait des passagers pour une période d'une semaine, deux semaines, un mois. Et donc, on était assez peu de membres d'équipage. Donc, ça faisait des équipes, une équipe très soudée et qui était à la fois très mélangée avec les passagers. Donc, qui devenaient à la fois parfois des amis, parfois non. Mais en tout cas, on vivait ensemble et donc, il y avait cet aspect-là. Après, là, récemment, j'ai travaillé sur des bateaux où il y a 15 membres d'équipage et c'est vrai que ça change tout parce que bah, l'organisation est complètement différente. Il y a une hiérarchie qui est beaucoup plus affirmée, une prise d'initiative qui est pas la même, la façon de travailler qui est beaucoup plus cloisonnée. Mais c'est l'organisation de chaque bateau qui est comme ça et c'est vrai que chaque bateau a ses particularités. Donc vraiment, c'est une source de découverte à chaque fois qu'on embarque sur un bateau différent.
Est-ce qu'il faut avoir certaines qualités pour trouver sa place, justement, dans ces équipages ?
Pour trouver sa place sur un bateau ?
S'affirmer ?
Oui, peut-être s'affirmer, mais à la fois respecter la façon dont le bateau fonctionne. C'est quelque chose qui est important et avoir de la prise d'initiative. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est aussi très importante sur ces bateaux-là, d'essayer d'être observateur et de pouvoir voir ce qui doit être vu en temps voulu. Ouais.
Et pour revenir un petit peu sur ton projet, ton entourage, comment est-ce qu'il a réagi à cette reconversion, entre guillemets, qui du coup, comme tu l'as souligné, n'était pas un changement brutal, mais plutôt un long processus. Est-ce que tu t'es senti soutenu ?
Oui, par ma famille. Enfin, mes parents, ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont dit que si j'étais heureux, c'était le principal. Bon, après, je pense que au début, ça n'a pas été forcément facile parce qu'ils voyaient pas trop l'intérêt de ce que je faisais. Puis ensuite, j'ai eu des navigations qui étaient en milieu polaire et qui étaient vraiment très intéressantes. Et là, je pense qu'ils ont été, ils ont compris plus. Plus vraiment ce que je faisais, et ils se sont dit bah c'est super parce qu'il va des endroits dans lesquels on n'ira peut-être jamais, dans lesquels peu de gens ont été. Donc c'est super qu'avant 30 ans ils puissent faire tout ça et qu'ils se donnent autant de mal à faire tout ça parce qu'ils voyaient que je me donnais du mal quand même et que je travaillais dur. Non, au début ça a pas été facile parce que ils se sont dit ah bah dis donc on lui a fait faire 5 ans d'études, il aurait mieux fait d'arrêter avant. Et puis bon, au fur et à mesure, ils se rendent compte que bah, c'est quand même un bagage qui est important, qui n'est pas négligeable du tout. Et puis qu'ensuite, je fasse quelque chose de différent, non, ça ne les dérange pas du tout.
Pour revenir un petit peu sur comment tu vis tout ça, toi, maintenant que tu as un peu de recul par rapport à tes expériences, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté personnellement ?
Bah, j'ai découvert vraiment un milieu à part entière. Ça, c'est vraiment très important. J'ai été dans des endroits dans lesquels j'aurais même pas rêvé d'aller, je pense. J'ai pu découvrir par le biais de certaines personnes aussi, hein, qui sont expertes de ces domaines, mais la faune, la flore, la façon dont la nature évolue et se crée dans plusieurs endroits de la planète. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Pendant 2 ans, j'ai eu la chance d'être marin sur un voilier polaire, donc qui était en péninsule antarctique et dans ces environs-là. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une découverte extraordinaire de voir ce mélange minéral avec la glace, les montagnes très rocheuses, la neige, la calotte glaciaire, etc. Et puis de voir la multitude d'animaux qui évoluaient là-dessus en l'absence de toute présence humaine. Ça, ça a été vraiment une expérience très marquante pour moi sur ces dernières années.
Et quelles ont été tes forces ? Tu nous parlais tout à l'heure, tu as évoqué la littérature comme un soutien. Est-ce que tu peux nous en dire plus lors de ces navigations, de ces expéditions que tu as faites ? Quels ont été tes soutiens ?
C'est vrai que c'est les périodes de long cours qu'on a, donc les périodes de navigation assez longues. C'est des périodes finalement où il y a assez peu de... Il y a la contrainte du bateau, mais il n'y a aucune sollicitation extérieure parce qu'il y a très peu de communication. Donc, quand la fatigue, etc., le permet, selon les endroits, mais ça permet de lire beaucoup, de discuter beaucoup, d'écouter de la musique, d'écouter des podcasts, donc de regarder des films. C'est vraiment des moments de liberté qui sont très précieux, je pense, surtout à l'heure actuelle où tout le monde est très sollicité par énormément de choses. Dire que ça me soutenait, je sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment important d'avoir...
Cet échappatoire.
Oui, d'avoir un petit peu ces différentes choses qui permettent de couper du bateau aussi. Hein. Mais c'est vrai que moi, en bateau, j'emmenais des romans de montagne. Et quand j'étais à terre, j'emmenais des romans de mer. Parce que justement, j'avais besoin de déconnecter et lire des histoires de tempête. Quand on est au milieu de l'océan, c'est pas forcément très bon pour le moral. Quoi. Donc,
j'imagine.
Donc non, mais de lire des bouquins sur quelque chose complètement différent, ça c'est sûr que ça a été important.
C'est vrai que ça évoque un petit peu l'image du marin solitaire qui lit, qui se cultive, qui s'occupe. C'est une image un peu archaïque aussi parce que c'est vrai que c'est en tout point éloigné de la vie moderne. Déjà, partir en expédition sur un voilier, c'est quelque chose de très peu commun aujourd'hui. Et en plus de ça, trouver un petit refuge dans la lecture, c'est... Moi, en tout cas, ça m'évoque des personnages, justement, de littérature qui embarquent et qui lisent, qui ont une imagination débordante. En tout cas, c'est ça que ça m'évoque. C'est ça que m'évoque ton histoire, ton parcours.
Oui, après, c'est vrai qu'il y a, enfin, il y a des moments d'équipage qui sont très importants. Hein.
Oui, j'imagine.
De dire qu'il y a une grande solitude à bord des bateaux, c'est une image parce que c'est vrai qu'en fait, c'est des endroits où il y a beaucoup de proximité et de promiscuité. Donc, de dire qu'il peut y avoir un sentiment de solitude, ça, c'est évident. Mais en tout cas, des marins qui sont très seuls quand ils sont en mer, je pense que c'est assez peu le cas.
À part ceux qui embarquent en solitaire.
C'est ça. À part pour les navigations en solitaire sportive. Hein, mais également, en fait, c'est des projets qui sont montés par des équipes ou c'est des équipes qui travaillent pendant plusieurs années ensemble. Et à la fin, il y a une seule personne sur le bateau. Mais je pense qu'elle a juste l'impression d'être un membre de l'équipe et qui va porter le projet sur la mer. Mais je pense que la voile en solitaire, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, c'est un sport d'équipe, il n'y a aucun doute là-dessus.
Il y a besoin d'une grande préparation à l'avance, avec forcément accompagné.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est vraiment des projets qui sont menés sur énormément de fronts différents, entre l'aspect technique du bateau, l'aspect financier pour gérer tout l'environnement autour du bateau, trouver des budgets, trouver des partenaires qui se reconnaissent dans le projet, avoir une communication positive. À la fin, en fait, ça fait énormément de compétences différentes et qui ne peuvent pas être réunies par une seule personne. Donc, c'est vrai que la voile sportive, Maintenant, donc, quand on pense au Vendée Globe, etc., c'est des équipes de minimum 5 personnes qui sont sur ces projets-là, et 5 personnes, c'est le grand minimum.
Alors, ton objectif à court terme, comme je viens de le dire, c'est la course. Mais est-ce que tu te vois plus tard rentrer dans le rang, entre guillemets, et devenir avocat, comme tu devais le faire il y a quelques années ?
Alors, je n'ai pas encore une grande visibilité là-dessus, je dois l'admettre. J'ai la chance, en fait, avec ce concours d'avocat, de pouvoir rentrer à l'école du barreau à chaque mois de janvier. Voilà. Donc, c'est vrai que chaque mois de janvier, j'y pense un petit peu, même de loin, hein, mais... Non, pour l'instant, en tout cas, c'est pas un projet que je souhaite mener à très court terme. Jusqu'en 2023, de toute façon, je vais être bien occupé, donc là, il y a aucun doute là-dessus. Mais après, c'est une porte ouverte à un moment où je serai plus ancré géographiquement.
Tu y penses ?
Non, pour tout avouer, c'est pas forcément des questions que je me pose au quotidien. Ouais. C'est vrai que là, avec mon projet de course, et puis le Covid a aussi limité énormément les déplacements à l'étranger pendant ces dernières années. Donc, comme beaucoup de gens, moi, le Covid m'a obligé à rester en France ou en tout cas en Europe pour travailler. C'est vrai que sinon, j'aimais beaucoup la navigation polaire et j'y serais retourné. C'est ce qui était prévu. Là, c'est vrai que tout est encore assez instable, donc c'est difficile de parier sur des grands voyages à l'étranger, même si la situation semble plus favorable. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis concentré sur mes projets qui sont plutôt basés en France et en Europe.
Et quels conseils pratiques tu donnerais aux étudiants qui souhaiteraient faire comme toi et changer radicalement de domaine ? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place qui t'a aidé à vraiment appréhender ce changement de manière sereine ?
Appréhender ce changement de manière sereine, c'est un grand mot, hein, mais pratiquement, je pense qu'il faut un investissement assez entier. C'est peut-être pas très pratique de dire ça, mais en tout cas, il faut faire énormément de concessions sur sa vie personnelle, familiale, professionnelle, et je pense qu'il faut vraiment s'investir quasiment intégralement, si on veut un changement assez fort, quoi. Il faut être souple, essayer de s'adapter aussi, parce que forcément, on va se confronter à un environnement différent. Donc, il faut essayer de sauter tout préjugé et y aller pour découvrir, y aller avec de l'humilité. Et puis, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas, ouais.
J'imagine qu'il faut être bien convaincu quand on fait un tel saut dans l'inconnu.
Oui. Convaincu et puis convaincu que ça va nous servir à quelque chose et qu'il va y avoir un apport personnel derrière, oui c'est sûr, parce que c'est sûr que quand on voit un peu nos amis qu'ont des emplois, des super boulots, qui s'investissent dans leur job, qui achètent des appartements, etc., faut se dire que bon, bah ce sera peut-être pour plus tard et que pour l'instant on fait autre chose.
Est-ce que toi, tu as un peu cette pression à rentrer dans le rang ?
Non, je ne ressens pas forcément de pression vis-à-vis de ça. Et j'ai de la chance d'avoir des amis qui ont compris, des amis proches qui ont compris mes choix, ou en tout cas qui l'ont respecté. Et c'est vrai que quand on se voit, il y a toujours énormément de plaisir de se retrouver, même après des longues périodes d'absence. Et il y a un effort mutuel pour se voir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel je leur suis très reconnaissant.
Tes récits aussi, j'imagine, doivent faire un peu rêver.
Oui, ça doit changer du quotidien des gens, mais il n'y a rien d'extraordinaire vraiment à ce que je vis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses extraordinaires sans avoir besoin d'aller très loin, finalement.
Tu étais sûr de toi quand tu t'es lancé dans cette aventure ?
Non, enfin, j'étais sûr de moi, j'étais sûr au moins de vouloir essayer, ça c'est sûr. J'étais sûr de vouloir essayer et puis de me jeter dans le bain et puis de voir ce qui allait se passer. C'était assez expérimental, finalement.
Tu n'as pas eu de doute, de frein que tu t'es mis à toi-même ?
Des doutes, il y en a toujours, mais ça, je pense que c'est propre à tout le monde, hein. Tout le monde a des doutes, quelle que soit la décision qui doivent être prises. C'est vrai qu'en plus, C'est des contrats pour travailler sur les voiliers qui sont assez courts, qui sont assez changeants aussi. Donc, c'est vraiment un jeu d'adaptation assez permanent. Et ça, parfois, ça peut provoquer une certaine lassitude.
Donc, tu évoques l'adaptation. Et plus largement, quelles sont les qualités qui te servent dans ta vie actuelle et dans ton métier qui est peu commun?
Moi, je pense que j'aime bien travailler en équipe. Et ça, c'est quand même très important. Je pense que comme on évolue dans un milieu où il y a forcément beaucoup de promiscuité et où il peut y avoir un environnement assez stressant, c'est très important de pouvoir travailler en équipe et d'essayer de ne pas faire d'erreur sur le rôle qu'on a et de ne pas forcément être dans la compétition avec l'autre, parce qu'à la fin, ça dessert tout le monde. Ça, je pense que ouais, savoir travailler en équipe sur un bateau qui soit pas très grand ou très grand, c'est très important.
Ce métier, il est tel que tu l'avais imaginé ?
Non, pas du tout. Il regroupe des facettes que j'envisageais pas du tout. De dire finalement qu'un voilier qui est plutôt une invention de la plaisance, hein, qui est plutôt un outil de plaisance, puisse être une entreprise, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. En fait, toutes les formes de navigation sont assez particulières entre le skipper qui est aux Antilles sur un catamaran et qui a 8 personnes qui viennent pour une semaine et qui fait ça pendant plusieurs mois d'affilée, ou le capitaine d'un bateau de 50 mètres. C'est complètement différent, mais à la fois il y a le tronc commun qui est, je pense, le goût d'être en mer et qui est très important pour tout le monde, que ce soit pour le marin sur un porte-conteneur ou pour celui sur un voilier de 10 mètres.
C'est un sentiment très particulier, ce goût de l'aventure, ce goût de partir au large.
Je ne saurais pas vraiment l'expliquer, parce que c'est vrai qu'encore une fois, il y a une personnalité qui est très différente, mais c'est un petit peu une confrérie, enfin, je dirais... Un peu ces métiers qu'ont existé et qui existent depuis des siècles. Et finalement, même si ils ne sont pas pratiqués du tout de la même manière, eh ben, il y aura toujours quelque chose à partager. Donc ça c'est vrai que c'est assez amusant, parce que parfois je suis avec des amis qui ne sont pas du tout marins et on est au bord de la mer. Et puis je vais discuter avec un mec qui a un bateau comme ça de façon très spontanée. Et on va tout de suite commencer à se tutoyer et à parler de choses et d'autres. Et c'est vrai que souvent, les gens sont surpris par cette spontanéité dans les échanges qu'il peut y avoir.
Ça te plaît, ce milieu très proche ?
Oui, ça, c'est vrai que c'est très intéressant parce que la rencontre est très facile. Donc ça c'est vrai que c'est un aspect qui est assez fascinant. Et même s'il y a une grande spontanéité, ensuite il y a tellement de bateaux différents, d'équipages différents, de capitaines différents, de marins différents, qu'il y a toujours quelque chose à découvrir.
Ça marche. Eh ben, merci beaucoup Pierre-Emmanuel pour ce moment qu'on a passé ensemble.
Ben, merci Emma.
Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci pour vos écoutes et vos retours. Continuez à le faire, ça me fait vraiment plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser un message sur Apple Podcasts. Altitude est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Altitude est un podcast rendu possible grâce aux facultés de l'Université catholique de Lille. À très vite !